Bien, bonsoir à tous. Alors, qui eût dit que par un temps pareil, une telle foule se déplaça pour, enfin, une foule, enfin. Je suis professeur de latin, donc moi, à partir de 5 élèves, c'est une foule. Mais qui eût dit qu'une telle foule se serait déplacée jusqu'ici? En tout cas, moi, j'en suis très heureux. Ça me fait chaud au cœur et j'espère que nous retirons tous beaucoup de cette rencontre. Alors, j'aurais bien voulu vous présenter Marie Connet, mais à vrai dire, je sais très peu de choses sur elle. Enfin, autant de choses qu'on peut connaître en discutant 5 minutes avec quelqu'un. Donc, je sais que vous avez enseigné les lettres classiques dans un collège des Landes, que vous êtes en disponibilité, mais voilà, j'aimerais que vous présentiez peut-être un petit peu plus. Davantage, oui. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas, peut-être les auditeurs aussi.
Alors, oui, je suis en disponibilité depuis 2 ans. J'ai enseigné depuis de nombreuses années dans un collège le latin, et seulement le latin, puisque j'ai toujours travaillé à mi-temps, voilà. Et aussi, depuis plusieurs années, j'ai publié des textes, des romans ou des textes inclassables, je ne sais pas comment les nommer, on va dire des romans, en parallèle de cette activité d'enseignement. Voilà, c'est ce que je peux dire à part ça.
Merci. Donc, il y a, de toute façon, il y a deux personnes pour ce livre. Il y a la traductrice et puis l'auteur. Donc, nous allons en venir à Ovide. Alors, Ovide, c'est le nom sous lequel nous le connaissons. C'est en vérité son nom de famille. Il s'appelait Publius Ovidius Naso. Publius, le prénom, Ovidius, le nom, Naso, le surnom. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. Et pour une présentation plus détaillée, je vais demander à Marie Connet de présenter l'aspect qui vous paraît intéressant, sa vie, peut-être, que tout le monde ne la connaît pas sur le bout des doigts. Elle est très mystérieuse, mais... Peut-être dans ces grandes lignes.
Alors, Naso, d'abord, c'est parce qu'il avait un grand nez, c'est ça? On peut commencer comme ça? Non, je ne sais pas grand-chose de la vie d'Ovide, personne ne sait grand-chose de la vie d'Ovide, à part qu'il y a son œuvre. Ce qu'on connaît d'Ovide, c'est son œuvre avant l'exil et son œuvre après l'exil. Donc, il y a ce moment de... cet événement dans sa vie sur laquelle j'imagine que vous en savez plus que moi encore sur l'événement, sur ce qu'on en dit aujourd'hui. Donc soit il a su quelque chose ou vu quelque chose qu'il ne fallait pas savoir, peut-être des rites religieux ou alors quelque chose contre Auguste qui se tramait. En tout cas, il a été exilé sur le pont Euxin à Tom en Roumanie, c'est ça, au jour actuel. Et à partir de là, alors jusque-là, il a écrit L'art d'aimer, Les amours, il a écrit Les héroïdes, il a écrit une grande partie des Métamorphoses. Et puis, en exil, il écrira Les tristes, Les fastes. Donc voilà, deux parties de son œuvre et deux parties de sa vie, coupées par cet événement sur lequel il y aurait sans doute plein de choses à dire, mais que moi, hélas, je ne pourrais pas vous dire de manière très précise.
Oui, effectivement, qui vécut sous Auguste au 1er siècle de notre ère. Et le grand événement, c'est l'exil. Alors, je crois que plus de 100 ou 150 théories ont été élaborées. Voilà. Il aurait une liaison avec la femme, avec la fille, avec la petite fille d'Auguste. Enfin, on ne sait pas. Mais bon, donc on ne tranchera pas cette question ce soir. Est-ce que les Métamorphoses ont été écrites avant ou après cet exil en Roumanie, alors qu'il le rend très très malheureux parce qu'il est au milieu de barbares qui ne parlent pas latin? Donc est-ce qu'on sait à quel moment quand même il a écrit les Métamorphoses?
Il les commence avant l'exil et probablement il les corrige ou il en écrit la fin, qui est la fin des Métamorphoses, on en reparlera, mais la fin des Métamorphoses, c'est toute la partie romaine, en fait, toutes les légendes romaines ou l'histoire même romaine qui est transformée par lui. Alors probablement que la fin est écrite, oui, en exil, mais c'est aussi une hypothèse.
Voilà, alors venons-en aux Métamorphoses. Donc évidemment, le contenu est en rapport avec ce titre. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce recueil? Donc vous voyez, il est assez volumineux. Et ici, il n'y a que la traduction française, il n'y a pas le texte latin. Ouais.
Alors, je le présente, donc 15 livres, enfin un énorme flot d'un poème, un long, long poème, divisé en 15 livres, c'est-à-dire un livre, ça va faire à peu près 900 vers, donc peut-être une vingtaine de feuillets ici, pour vous donner une idée. Donc 15 livres, on commence avec une cosmogonie, le monde se met en place, comme il y a un déluge, les éléments se séparent, hein, voilà, il y a du Hésiode dedans, il y a la Bible aussi, enfin, il y a tout, voilà, on est dans une création du monde. Et puis après la création du monde, eh bien, ce sont les hommes et les femmes et les bêtes et les minéraux, etc., qui vont eux aussi se transformer. Et à partir du livre 12, je pense, on passe aux histoires de la guerre de Troie. Donc il réécrit en quelque sorte son Iliade à lui. Puis il réécrit son l'Odyssée, le retour d'Ulysse, en prenant simplement les moments forts qu'il a envie de raconter, et puis de transformer surtout, de transformer. Et puis à la fin, on finit par un long passage de la parole est au philosophe Pythagore, philosophe qu'il imagine, parole de Pythagore que Ovide transforme aussi, évidemment, de la même manière qu'il a transformé l'Iliade, qu'il a transformé l'Odyssée, qu'il a transformé les légendes grecques. Voilà.
Mais alors pourquoi ce titre, Les Métamorphoses, compte en commun toutes les légendes qu'il raconte finalement?
Pourquoi ce
titre? Voilà, oui, tout simplement.
On aurait pu traduire les transformations. Non, enfin, voilà. Les métamorphoses, c'est parce qu'il chante, il dit qu'il va raconter l'histoire des formes changées, des corps changés en d'autres corps, en de nouveaux corps. C'est-à-dire que jamais dans le texte, une forme ne s'arrête à ce qu'elle était. Elle va devenir autre. Voilà, bon, c'est sans doute. Après, aussi, peut-être dire aussi que le poème ne s'arrête jamais, ou c'est tout comme si le poème ne s'arrêtait, ou pouvait ne jamais s'arrêter. Toujours on pourrait continuer, toujours on pourrait continuer. Donc, chaque fois qu'une forme est posée, eh ben, elle est à transformer, transformable en transformation. Peut-être ça, c'est des éléments, mais il y en aurait plein d'autres. Hein,
voilà, oui, c'est ça. En réponse. Fait, c'est ça, ce sont des héros qui se transforment à la fin de la légende, enfin à la fin de la petite histoire, ils se transforment en animaux, en végétaux.
Alors il n'y a pas que oui, on a des personnages. Alors prenons une femme, Daphné. Elle est poursuivie par un dieu, Apollon, qui veut la violer, et elle va supplier d'être transformée en arbre pour échapper à cet assaut d'Apollon. Bon, voilà un exemple. Mais en réalité, je pense que quand vous m'avez posé la question sur les métamorphoses, je me disais, oui, on a tout ça, on a toutes ces transformations en végétal, en minéral, en pierre, en oiseau, en animal, enfin, il y en a plein, il y en a de nombreuses, en liquide aussi, en eau, en fleuve, etc. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que des métamorphoses dans les métamorphoses. Il y a plein de passages où il n'y a pas la moindre métamorphose. Et quelquefois, il y a de très longs passages dans lesquels, par exemple, Pythagore, ça prend plusieurs pages, dans lesquelles on ne voit pas la moindre métamorphose. Donc, on parle des métamorphoses, mais on n'en voit pas à l'œuvre. Et donc, il me semble que les métamorphoses, c'est aussi autre chose que ces transformations ponctuelles de personnages. C'est aussi la transformation du récit. C'est aussi la transformation du poème sans arrêt. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'à partir du chant 12, il réécrit l'Iliade. Bon, il transforme l'Iliade. Et il transforme aussi l'épopée. Parce qu'évidemment, le modèle célèbre des métamorphoses, c'est toutes les épopées antérieures. Pas seulement, mais aussi donc, toutes les épopées d'Homère, mais aussi de Virgile, qui écrit juste avant lui. Et d'ailleurs, il travaille beaucoup avec Virgile à partir du chant 12, hein, toute la fin. C'est une sorte de réécriture, non seulement d'Ulysse, mais aussi du retour d'Énée, donc de l'Énéide de Virgile. Donc il y a aussi ça, cette transformation de l'épopée. Donc ça fait beaucoup de transformations. Transformation de la langue, transformation de l'épopée, transformation des épopées qui existent, l'Iliade, l'Odyssée et l'Énéide, déjà ça. Et puis les transformations des héros. Et je pense qu'on pourrait en trouver plein d'autres.
Donc c'est une œuvre très ondoyante finalement. On voit les Romains comme étant un petit peu des gens bornés, des soldats, des paysans, des juristes. Et là c'est une œuvre finalement qui, je sais pas, a-t-elle des précédents à Rome ou en Grèce? Est-elle unique?
Ah, oui, c'est vrai. Alors, vous allez le savoir mieux que moi en fait. Non. Mais même les héroïdes, si on prend les héroïdes d'Ovide, c'est assez unique aussi. Les héroïdes, ils donnent la parole à des femmes qui écrivent des lettres d'amour, des lettres non, pas d'amour, des lettres de rage, des lettres de colère à leurs amoureux qui les ont abandonnés. C'est quand même... Et je ne sais plus combien il y a de lettres, mais enfin, il y en a un certain 15, nombre, voilà, 15. Chaque fois, c'est une héroïne, une femme connue de l'Antiquité. Alors, il y en a 14 héroïdes, plus une vraie femme, Sappho, une poète elle-même, qui elle aussi prend la parole. Donc, c'est des dispositifs comme les métamorphoses. Je ne suis pas très sûre qu'on connaisse le roman épistolaire au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est très novateur en fait comme genre. Et peut-être les métamorphoses, même s'il vient toujours se raccrocher, comme on l'a dit, à l'épopée antérieure, c'est très très nouvelle par rapport aux épopées évidemment, par rapport à Virgile, par rapport à...
Alors, bon, puisque c'est un caractère un petit peu unique, je me demandais si vous pouviez nous lire peut-être dès maintenant, alors une métamorphose peut-être pas trop longue, pour que chacun se rende compte de ce que c'est finalement, que cet objet un petit peu bizarre.
Alors, je vais chercher, mais ça serait bien de lire le passage où Thétis, qui est la mère d'Achille, et donc Achille est le héros de l'Iliade, et chez Ovide, on la retrouve chez Ovide, et c'est le moment où Pélée, le père d'Achille, tente d'avoir une relation avec elle, et il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'elle se métamorphose. Et c'est un peu l'idée que l'épopée, puisqu'Achille est l'épopée, c'est le héros de l'épopée, donc c'est l'épopée, donc c'est l'idée que l'épopée prend toutes les formes, c'est ce que fait Ovide, mais malgré tout, finit par retomber sur ses pieds, sur ses pattes, sur ses... Voilà, donc il faut juste que je la retrouve. C'est, il me semble, au livre 10. En plus, j'ai pris des petites notes, hein, mais j'en ai trop. Voilà, je l'ai. Donc Protée, c'est le père de Thétis. Protée, c'est un des dieux de l'eau, et il prend toutes les formes, Protée.
Alors oui, avant que vous lisiez, je me permets de signaler qu'à la fin de votre traduction, il y a un glossaire très utile qui présente tous les héros et les personnages importants du livre.
Voilà, donc si on cherche,
de s'y retrouver sans difficulté.
Si on cherche Protée ou si on cherche Thétis, on sait exactement où on le trouve. Donc le vieux Protée a dit à Thétis, « Déesse de l'onde, fais un bébé. » Tu seras mère d'un garçon qui, dans ses années de courage, vaincra les actes de son père, qu'on dira plus grand que lui. Pour qu'il n'y ait au monde rien de plus grand que Jupiter, même s'il ne brûle pas de tiède feu, Jupiter fuit les noces de Thétis la marine. Il veut que le fils d'Éaque, son petit-fils, le remplace dans ses désirs, qu'il tente des caresses à la Vierge de l'eau. Il y a un golfe, en aémonie, courbé en forme d'arc, ses bras s'élancent. Si l'eau y était plus haute, ce serait un port. L'eau baigne le dessus du sable. Le rivage est ferme, ne garde pas de traces, ne retarde pas la marche, n'est pas couvert, l'algue n'y accroche pas. Au-dessous, il y a une forêt de myrtes, semée de baies bicolores. Il y a une grotte au milieu, faite par la nature ou par l'art, difficile à dire, plutôt par l'art, où souvent, assise sur un dauphin qu'elle dirige, Thétis, nue, viens. Un jour ici, tu es couché, vaincu par le sommeil. Pélée te prend, et comme tu refuses ses prières, il prépare la violence. De ses deux bras, il serre ton cou. Sans ta technique habituelle de changer toujours de figure, il va réussir ce qu'il ose. Là, tu es un oiseau, il tient un oiseau. Là, tu es un arbre, Pélée tient ferme à l'arbre. Ta troisième forme est celle d'une tigresse tachetée. Elle effraie le fils d'Éaque qui détache ses bras de ton corps. Il adore les dieux, avec du vin versé sur les eaux de la mer, avec les entrailles des bêtes, avec la fumée de l'encens. Du milieu de l'abîme, le devin de Carpathos lui dit « Fils d'Éaque, tu auras les noces que tu veux lorsqu'elle reposera, endormie, dans sa rude grotte. Attache-la, ignorante, avec chaîne et liens serrés. Ne te laisse pas tromper. Elle imite sans figure, mais serre. » Quoi qu'elle soit, jusqu'à ce qu'elle redevienne ce qu'elle était. Protée a dit. Il plonge son visage sous l'eau et reçoit, sur ses dernières paroles, les flots. Le titan, en avant, tient sous son char incliné la mer d'Hespérie, quand la belle Néréide, quittant l'océan, entre dans sa couche habituelle. À peine Pélée a-t-il touché le corps de la Vierge qu'elle s'invente des formes, jusqu'à ce qu'elle se sente tenue, bras écartés, d'un côté, de l'autre. Elle gémit, tu n'as pas gagné sans la volonté d'un dieu. Elle se montre Thétis, le héros l'embrasse, elle se révèle, il réalise son désir, l'emplit de l'immense Achille. Du coup, on voit que Thétis, qui prenait toutes les formes, redevient, à force qu'il... On lui laisse prendre toutes les formes et à la fin, elle redevient ce qu'elle était. Et donc, on peut lire ça comme une sorte de métaphore de ce que fait Ovide avec sa nouvelle épopée, avec sa forme nouvelle donnée à son épopée, à lui.
Merci. Alors je pense que chacun a pu mesurer les qualités littéraires de votre traduction. Et je me posais la question en vous écoutant. De l'attitude que vous avez eue par rapport aux traductions, alors je viens un petit peu à votre travail, aux traductions précédentes. Il y a deux façons de travailler, soit des gens qui ont sur leur table 10 traductions précédentes ouvertes pour comparer, et d'autres qui ne veulent surtout pas regarder ce qui a été fait avant pour faire quelque chose de neuf, pour ne pas se laisser influencer. Alors voilà, comment avez-vous
procédé ? C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est plus bricolé que ça, en fait. J'ai du mal à avoir une technique que je garde, une rigueur, voilà, une technique rigoureuse comme ça que je garderai tout le temps. Donc parfois je vais aller voir parce que je trouve intéressant d'aller voir c'est un passage particulièrement intéressant, particulièrement difficile, du coup je vais aller voir. Puis la plupart du temps je vais pas voir, mais pas parce que je veux absolument pas aller voir, mais simplement parce que je suis prise par ce que je fais, que je préfère le faire. Voilà, j'ai pas une façon de fonctionner par rapport à ça. Mais malgré tout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à partir d'un texte établi par Georges Lafaille chez Budé, Les Belles Lettres, texte établi anciennement en 1929, et j'ai pas travaillé l'établissement du texte. On pourrait, d'ailleurs, on peut toujours travailler par rapport, non pas les manuscrits directement, mais enfin différentes, dans les apparats critiques qui nous aident à établir le texte, à faire des choix, etc. Bon, ça m'est arrivé rarement de faire des choix qui n'étaient pas les choix que faisait Lafaille, deux, trois fois, mais vraiment très rarement. Donc ça l'établissement du texte, voilà, ce n'était pas un travail de spécialiste dans ce sens-là. En revanche, pour le texte latin, j'ai lu que le texte latin, sauf, je vous dis, de temps en temps, mais après coup, après, aller voir ce qui se faisait ou ce qu'avait pu trouver un tel ou une telle dans un tel passage. En revanche, la collection Budé, chez Belles Lettres, elle est bilingue. Et le texte établi par Lafaille, il est traduit. Il est donné à lire dans une version en fait qui donne accès au texte et au sens, ce qui permet de temps en temps, quand on doute ou qu'on risque d'aller trop vite, et ben jeter un œil sur le français pour voir si on n'a pas fait un contresens à cet endroit. Voilà. Donc ça oui, c'est un texte qui est un appui en fait à la lecture du latin. Donc ça oui, je m'en suis servi un petit peu. Oui.
Alors, quand on peut lire, en fait, les métamorphoses, on peut un peu picorer dedans. Ce sont des récits, évidemment, il faut mieux lire dans l'ordre, mais ce sont des récits indépendants les uns des autres. Vous avez envie de lire ce qu'il arrive à Narcisse, à Arachné, qui sont sûrement en araignée. Vous pouvez vous reporter au glossaire de la fin du livre et on vous renvoie au passage qui correspond. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez traduit dans l'ordre, du début à la fin, ou est-ce que vous avez commencé par les passages qui vous intéressaient le plus ? Enfin, je ne sais pas comment vous avez fait. Non.
Alors, à part le fait que j'ai commencé à traduire les chants 10, 11, 12 avant tous les autres, parce qu'ils étaient au programme des terminales littéraires il y a 10 ans, donc ça, je les ai traduits avant tous les autres, 10, 11, 12. Ça commence à Orphée, en fait, c'est les chants d'Orphée. Ils sont magnifiques, les chants d'Orphée. Et ça s'arrête au début de ce qui se passe pour Achille, donc le début de la réécriture de la guerre de Troie par Ovide. Donc ces trois chants-là, je les avais traduits indépendamment, en fait, comme un tout, qui était un tout, qui fait une espèce... Parce qu'en réalité, les métamorphoses, sous ce flot apparent et ce bazar apparent, il y a quand même une structure, je pense. Et donc, ces trois chants-là, ils se tiennent assez bien. Et voilà. Et après, quand j'ai eu envie, j'ai pas eu envie de cesser en fait, j'ai pas eu envie de m'arrêter là, j'ai repris. Évidemment, ça m'est pas venu à l'idée de faire de les traduire dans un ordre qui serait un ordre de préférence ou de ce que j'avais envie de traduire en premier. Non, j'ai pris au chant 1 et j'ai repris jusqu'à la fin. Ouais.
Alors, je vais vous poser une question je suis traducteur moi aussi, et c'est une question qu'on me pose souvent, même si je ne l'apprécie pas beaucoup. Mais enfin, comme on me la pose souvent, je me dis que plusieurs d'entre vous se la posent aussi. Donc, c'est pourquoi une nouvelle traduction des Métamorphoses, alors qu'il y en a beaucoup au 19e, au 20e siècle, tout simplement.
Après, c'est pas à moi de dire pourquoi une nouvelle traduction. Alors, pour moi, elle n'est pas nouvelle. C'est la seule que j'ai faite, donc c'est pas ma nouvelle traduction de Métamorphose d'Ovide. Moi, la question qui me serait, ça serait si jamais un jour j'avais envie de le retraduire, pourquoi, d'accord, mais parce que j'ai raté ci, j'ai raté ça. Mais le fait que je le traduise, c'est pas nouveau. Enfin, pour moi, c'est pas une nouvelle traduction. C'est la seule que j'ai pu faire. Et après, ça voudrait dire que je juge les précédentes. Alors oui, il se trouve que oui, un peu, mais c'est pas la raison pour laquelle je... Vous voyez ? Alors il se trouve que oui, bien sûr, mais c'est pas la raison pour laquelle je vais traduire au vide. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai envie tout simplement de traduire ce texte, parce que d'être avec ce texte et dans ce texte, je m'y sens et je m'y sentais et je m'y sens encore bien. Ça allait. J'avais envie. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres réponses que j'en avais extrêmement envie. Alors après, dans un deuxième temps, mais ça ne vient que dans un deuxième temps, avoir une idée ou penser quelque chose des traductions précédentes. Oui, je les trouve un peu ratées, évidemment, mais pas parce que, mais même pas. Par exemple, j'ai eu envie de traduire Antigone de Sophocle. Il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Il y avait déjà une traduction qui existait, qui est remarquable, qui est publiée chez Minuit, qui est traduite par Jean Bollack. Je l'ai fait quand même, pas pour la publier en disant c'est la super nouvelle traduction d'Antigone de Sophocle, mais je pense qu'elle a des qualités aussi, cette traduction. Mais malgré tout, et celle de Jean Bollack, je l'adore. C'est une traduction que j'adore. Et ce n'est pas parce qu'il y avait déjà une traduction que j'adorais, ça ne m'a pas empêché, par envie, par plaisir, par passion, de traduire à mon tour. Je pense que quand on fait quelque chose, on ne le refait pas, en fait. On le fait. Il ne m'a pas semblé que je refaisais une traduction, que je retraduisais au vide. Je ne l'ai jamais traduit avant. Donc pour moi, c'est vraiment un geste très intime, en fait, et très proche. Du texte, c'est pas quelque chose que je fais par rapport à l'histoire littéraire, par rapport à Ovide, par rapport à moi-même aussi, mon rapport à la littérature. C'est vraiment voilà.
Oui, non, mais c'est une question que j'apprécie pas beaucoup non plus, mais voilà, c'est mon
non,
devoir.
J'ai pas dit que je l'appréciais pas, ça me permet de répondre.
Alors non, une question qui est plus intéressante, qu'on m'a jamais posée, pourtant je l'aurais bien aimé. Donc c'est pour qui, pour qui avez-vous fait cette traduction?
Bon, c'est évident que... Alors, après, ça parle aussi de moi et de ce que je suis et de ce que je fais dans la vie, etc. Mais
c'est pas un interrogatoire.
Comment ?
Vous dites ce que vous voulez, hein, c'est pas un interrogatoire.
Ah ben, j'y compte bien dire ce que je veux, enfin ça, il n'y a pas de souci. Non, mais je veux dire que la réponse, forcément, je vais passer par quelque chose d'un peu personnel, etc. Donc, évidemment, ça m'intéresse... ça m'intéresse beaucoup ou davantage que ce soit par exemple des adolescents, des gens qui n'ont pas accès forcément à Ovide dans le texte, qui aient accès à cette traduction. Mais là encore, j'ai pas écrit pour des gens qui n'auraient pas accès à Ovide dans le texte. J'ai pas pensé quand j'ai traduit, j'ai pas pensé à un destinataire éventuel, quoique j'avais, si je le après, je me repose après dans le après coup. J'avais un destinataire. J'avais mes élèves. J'avais des destinataires adolescents, évidemment. Mais c'est pas en le faisant, on se dit pas tiens, je le fais pour eux, ou je le fais pour un public ou pour. Mais après, je me rends bien compte. Mais ça, c'est après que je peux le dire que bien sûr que ça m'intéressait beaucoup que des jeunes, par exemple, puissent y avoir accès ou que. Mais en fait, pour tout le monde, pour tout le monde.
Très bien, c'est la meilleure réponse, je crois. Et que pourrait y trouver un lecteur d'aujourd'hui, un adolescent dont vous parliez, peut-être qui n'est pas tout à fait familier avec l'histoire d'Ovide, avec Auguste, même avec la littérature antique, à votre avis, qu'est-ce que...
C'est un roman fantastique en fait, c'est une sorte d'un roman, c'est un roman d'image aussi, c'est un roman, et puis c'est j'espère du plaisir de lecture, tout simplement, du plaisir de lecture ou du plaisir de lecture à oraliser, à entendre en fait. C'est des histoires, c'est plein d'histoires qui n'ont pas de fin en fait. Qu'on connaît déjà, qu'on croit connaître. Alors, quand on parle des adolescents, il y a tout un tas de légendes qui sont dans Ovide, qu'ils connaissent, parce qu'ils ont quand même Ovide au programme en 6e ou en 5e, je ne sais plus. Donc, il y a plein d'histoires qu'ils connaissent, notamment Phaéton, Narcisse, Arachné, enfin, tous les grands passages célèbres. Mais il y a aussi tous les passages... qui sont pas connus, l'histoire de Byblis est connue, la sœur et le frère qui s'aiment, l'histoire quand même du cyclope, le cyclope on le connaît et les élèves le connaissent aussi quand Ulysse lui enfonce son pieu dans l'œil, et là on voit un cyclope amoureux complètement sympa et un peu stupide d'amour en fait, un peu bébête, et donc on a déjà un dialogue en fait avec l'histoire. En fait les élèves, ils y trouvent, les élèves ou pas élèves, enfin les jeunes ou même pas jeunes, enfin nous on y trouve aussi un dialogue avec ce qu'on sait ou croit savoir des histoires antiques, parce qu'Ovide y joue à ça évidemment.
Je crois que vous avez peut-être interloqué beaucoup de gens avec ce cyclope sympa. Est-ce que vous pourriez, enfin, je ne sais pas si vous avez noté le passage.
Il est un peu bête.
Peut-être,
hein.
Est-ce que vous pourriez nous lire ce passage-là, peut-être. Sauf si ça vous demande trop de...
Non. C'est à la fin, le cyclope. C'est... Oui, il est amoureux, en fait, chez Ovide, le cyclope. En fait, on le voit amoureux avant de le voir blessé par Ulysse. C'est vrai que tous les lecteurs d'Ovide, mais même aujourd'hui, quand on parle du cyclope, on a tous plus ou moins l'idée, même si on ne se souvient pas de où c'est dans l'histoire. Voilà. On sait très bien qu'il n'a qu'un œil, et on sait aussi que cet œil, il va être... Oui, c'est celui-là. Ouais. Polyphème. Il s'appelle Polyphème. Alors, l'œil que tu as, alors c'est un oracle qu'on lui fait, hein, on lui prédit qu'on va lui arracher l'œil, que quelqu'un va lui arracher l'œil. L'œil que tu as, le seul, sur le front, au milieu, Ulysse, dit-il, va te l'arracher. Le cyclope rit. Triple idiot de devin, tu te trompes, il y en a une qui me l'a déjà arraché. Il méprise la vie vraie, vain. Où de son pas immense, sur le rivage il va et vient, où fatigué se replie dans sa grotte. S'avance dans la mer, en longue pointe au bout menu, une colline. Les vagues la baignent des deux côtés. Le cyclope, sauvage, y monte, s'assied au milieu. Ses troupeaux de moutons le suivent, personne ne les guide. Il a un pain, il s'en sert comme d'un bâton, qui pourrait porter des voiles, il le pose à ses pieds. Il prend une flûte, faite de 100 roseaux, toutes les montagnes entendent ces sifflements de bergers, toutes les eaux. Caché sous un rocher, posé sur la poitrine de mon cher Assis, mes oreilles cueillent ces paroles. Les mots entendus, je les ai notés. Et donc voilà les mots entendus, les mots prononcés par le cyclope, la poésie du cyclope. Tu es plus blanche que la feuille de neige, Galatée, du Troène. Tu es plus fleurie que les prés, plus fine que l'aulne long, plus transparente que le verre, plus coquine que le tendre chevreau. Plus légère que les coquillages polis et repolis par la mer, plus gracieuse que les soleils d'hiver et que l'ombre d'été, plus délicieuse que les fruits, plus attirante que le haut platane, plus lumineuse que la glace, plus douce que le raisin mûr, plus molle que les plumes du cygne et que le lait caillé, et, si tu ne fuyais pas, plus belle qu'un jardin bien arrosé. Plus cruelle même, Galatée, que les taureaux indomptés, plus dure que le chêne d'âge, plus trompeuse que les eaux, plus têtue que les pousses du sol, que les sarments blancs, plus immobile que ses rochers, plus violente que le fleuve, plus orgueilleuse qu'un paon adoré, plus féroce que le feu, plus rude que les ronces, plus bourrue que l'ours qui a mis bas, plus sourde que les flots, plus sauvage que le serpent qu'on veut écraser, et, C'est ce dont je voudrais pouvoir te guérir, plus que le cerf poussé par des aboiements, plus que les vents, plus que la brise qui vole, fuyante. Si tu me connaissais bien, tu ne voudrais pas me fuir. Tu regretterais de me faire attendre, tu ferais tout pour me garder. J'ai, à moi, un morceau de montagne, et j'ai, creusé dans la roche vive, des grottes, où on ne sent pas le soleil en été, où on ne sent pas l'hiver. Il y a des fruits qui pèsent sur les branches, il y a, pareil à de l'or, sur les longs rameaux, des grappes. Il y en a des pourpres, toutes, elles sont pour toi. De tes mains, tu cueilleras, nées sous l'ombre des bois, les fraises douces, les cornouilles d'automne et les prunes, les bleus aux jus noirs, mais aussi les meilleures qui imitent la cire nouvelle. Et les châtaignes, si je suis ton mari, elles ne vont pas te manquer. Ni les petites arbouses, tout arbre est pour toi, tout ce troupeau est à moi. Beaucoup de mes bêtes errent dans les vallées, la forêt en cache beaucoup d'autres, beaucoup encore sont à l'étable et dans les grottes. Si tu me le demandes, je ne pourrais pas te dire combien elles sont. Ce sont les pauvres qui comptent leurs bêtes. Je fais leur louange, mais ne me crois pas. Viens plutôt et vois. Elles ne peuvent pas tenir entre les jambes leurs mamelles gonflées. Il y a, c'est la jeune génération, dans les bergeries tièdes des agneaux, dans d'autres bergeries, des chevreaux du même âge. Moi, j'ai toujours un lait de neige, un peu pour en boire, un peu battu et caillé pour le faire durcir. Des lys faciles, cadeaux communs. Ce n'est pas pour toi, mais des daims, des lièvres, des chèvres, un couple de colombes, un nid tombé de la cime d'un arbre. J'ai trouvé ces jumeaux, ils pourront jouer avec toi, ils sont si semblables, à peine tu pourras les reconnaître. Ce sont les bébés de l'ours velu qui vit en haut de la montagne. Je les ai trouvés et j'ai dit... Ils seront pour ma maîtresse. Maintenant, lève ta tête magnifique au-dessus de l'eau bleue. Maintenant, Galatée, viens, ne refuse pas mes cadeaux. Oui, je me connais. Dans le reflet de l'eau limpide, je me suis vue il n'y a pas longtemps. Et elle m'a plu, la forme que j'ai vue. Vois si je suis grand. Il n'y a pas plus grand que ce corps. Même pas Jupiter dans le ciel, puisque vous aimez raconter qu'y règne un certain Jupiter. Toute cette chevelure par-dessus mon visage rude qui ombrage mes épaules comme une forêt et mon corps tout dense, de poils drus dressés, ne crois pas que c'est laid. Un arbre sans feuillage est laid. Laid un cheval si une crinière ne couvre son cou alezan. La plume couvre l'oiseau, la laine est bonne pour la brebis. La barbe va bien aux hommes et les poils drus sur le corps. J'ai un seul œil au milieu, sur le front, mais c'est comme un immense bouclier. Quoi ? Tout ça, le grand soleil ne le voit pas du haut du ciel. Le soleil n'a qu'un œil. Et puis mon père règne dans tes flots. Je te le donne pour beau-père. Prends pitié de moi, écoute les prières d'un suppliant. Devant toi seul, je me mets à genoux. Oh, il est attachant, hein. Le cyclope Polyphème, on l'a pas comme ça dans l'Odyssée, en fait. Il est amoureux, il est un peu... Puis il se trouve beau avec son feuillage...
Oui, donc chez Ovide, même le cyclope déploie des trésors d'éloquence, alors que c'est un être plutôt offruste.
Hein, oui, enfin, c'est une éloquence quand même. Alors, si on veut traduire,
non,
enfin, tu es plus belle qu'eux, enfin, il y en a pendant 100 vers. C'est un très bon exercice pour le comparatif au collège. Hein. C'est quatrième, ça marche très 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 bien et,
non, et c'est pas bien, difficile. Alors, c'est vrai que vous avez dit que les métamorphoses étaient... Il y avait des changements sur la forme, mais là, effectivement, le ton est très différent de l'extrait précédent. Évidemment, il y a une forme d'ironie. Hein, les arbouses, surtout à Bordeaux, comme tous les enfants de la région, j'ai mangé des arbouses quand j'étais petit. C'est pas du tout un bon souvenir. Et le cyclope paraît assez ridicule. Hein.
Ouais, non, mais on a ridicule, réhabilité le cyclope
non,
quand
pas
même.
Ridicule, il est touchant, disons. Touchant, mais enfin, bon, on voit bien qu'il ne va pas arriver à ses fins malgré ses belles paroles. Est-ce qu'il y a justement un héros qui vous a particulièrement touché en dehors du cyclope ?
Alors,
une héroïne, hein, enfin.
Il y a beaucoup de femmes, hein ?
Oui, oui.
Il y a beaucoup de femmes touchées, voyons, intéressées. C'est difficile de répondre comme ça. Orphée, oui. Pythagore, Médée. Après, on va reparler de chacun, mais j'essaye de voir qui m'a touchée là, parce que si j'y pense pas, c'est qu'ils vont pas. Donc, on a évidemment.
Oui, déjà avec ces trois-là.
Déjà ces trois-là. Bon. Ouais, mais je pense que je dis pas.
Bon,
Pythagore,
alors, je vous laisse réfléchir.
C'est
Oui.
tellement énorme, Pythagore, à la fin, parce que c'est le discours sur on ne mange pas les animaux, puisqu'on est tous une même espèce et qu'une transmigration des âmes, etc. Donc c'est intéressant, mais peut-être c'est pas ça qui m'a le plus touchée. Je pense que c'est un truc que je trouve intéressant, donc je pense à vous le dire, mais je réponds pas vraiment à la question. Celle qui me touche beaucoup, elle est au milieu du livre, c'est Médée, évidemment. Alors elle est indéfendable, Médée. Mais en fait, Ovide, c'est ça aussi, c'est réhabiliter des gens indéfendables, comme le cyclope. Alors là, il en fait quand même un type un peu bourru, pas très malin, qui a une éloquence, en effet, qui ne s'arrêtera jamais, mais qui est lourdingue, voilà. Et Médée, qui est la femme cruelle, magicienne, sorcière que l'on sait, puisqu'on sait tous qu'elle a tué ses enfants, qu'elle est prête à couper son frère en petits morceaux et le faire bouillir pour retarder les poursuivants. Elle est capable de tout, en fait, elle n'a aucune limite. Et de toute façon, Ovide, il n'a pas de limite non plus dans le récit, dans le poème, puisque jamais il s'arrêtera de raconter. Enfin, en tout cas, il fait tout comme on l'a entendu avec les comparatifs, toute la série des comparatifs là, qui ne s'arrête pas avec... il fait la même chose ailleurs. Et donc Médée, elle ne va jamais s'arrêter, elle ne va jamais arrêter ses crimes. Et on a un très long passage au milieu du texte, au chant 7, où on voit Médée dans tous ses crimes accumulés, n'être jamais arrêtée, ni par une métamorphose, c'est à peu près la seule qui ne se métamorphose pas dans tout le bouquin, ni par une peine en fait, qui tomberait d'en haut ou qui l'arrêterait, qui lui donnerait un châtiment, etc. Et après, donc, qui m'a touchée, je ne sais pas, mais en tout cas aussi intéressée, c'est Orphée, puisque Orphée, c'est le poète qui cherche à récupérer Eurydice aux enfers, à aller la chercher. Et puis peut-être que Orphée, c'est au livre 10, c'est ce passage des enfers qui est le passage obligé de presque toutes les épopées. On plonge aux enfers. Chez Virgile, dans l'Énéide, c'est au livre 6, avec Énée qui va avoir son père et puis tous les copains aux enfers. Et là, c'est Orphée qui va pour d'autres raisons, pour ramener avec lui, puis là, il échoue, vous savez. Et une fois qu'il revient, il décide de ne chanter que les amours un peu bizarres, les amours des garçons pour les garçons, les amours qui vont choquer, en fait, les amours qui ne sont pas ordinaires, hein, c'est ce qu'il dit. Et Ovide dit, à partir de là, il chantera d'une lyre plus légère. Donc, en fait, les choses qui pourrissent la vie, mais qui n'ont pas l'air si graves que ça, c'est pas la guerre, quoi. C'est pas l'épopée, c'est pas la tragédie, c'est autre chose. Bon, ce qui n'est pas vrai, puisque pour des histoires d'amour tout à fait légères, comme dit Ovide, on finit très mal, on finit dépecé, coupé en morceaux, donc c'est tout aussi tragique. Donc voilà, c'est autour de ces trois personnages.
Merci. Merci. Alors, en ce qui me concerne, ma curiosité a été rassasiée, la curiosité que j'ai nourrie en lisant votre ouvrage. J'aimerais simplement insister sur un point. Alors, j'ai donné un cours sur les métamorphoses pendant 7 ou 8 ans à l'université, dans la traduction de Georges Lafaille dont vous parliez. Et puis, en découvrant celle-ci, vraiment, j'ai vu le texte sous un, peut-être pas un nouveau jour, mais enfin vraiment, ça donnait un vent de fraîcheur à Ovide. Le rythme du texte est très bien senti. Tout le monde a pu l'entendre. Hein, il y a vraiment de grandes beautés. Contrairement à la traduction de Georges Lafaille, qui sentait un petit peu des trucs de version latine que bon, je me rappelais moi-même quand j'étais étudiant. Donc bon, là vraiment, on a l'impression de lire une véritable œuvre littéraire et pas tout à fait une version.
On a les dieux. Qui cherche une maison hospitalière. Il n'en trouve pas. Non loin de là, il y a un lac, une terre jadis habitable, maintenant des eaux peuplées de plongeons et de foulques des marais. Jupiter, sous visage humain, y vient, et avec son père, le petit-fils d'Atlas, sans ses ailes, le porteur de Caducée. Hermès, donc. Il frappe à 1000 maisons, cherchant un lieu de repos. 1000 maisons sont fermées à clé. Une seule les reçoit, toutes petites, couvertes de chaumes, de roseaux des marais. Baucis, bonne vieille, et du même âge qu'elle, Philémon, ensemble depuis leurs jeunes années, ensemble, la maison les a vus vieillir, ils avouent leur pauvreté, qu'ils rendent légère, supportent, sans la trouver injuste. Ne va pas ici chercher maître et serviteur. Toute la maison, c'est eux. À la fois, ils obéissent et commandent. Quand les habitants du ciel touchent ce petit foyer, quand ils entrent, tête baissée, par la porte modeste, le vieil homme leur dit de reposer ici leur corps, sur ce siège, où Baucis a posé, délicate, un rude tissu. Dans le foyer, elle remue la cendre tiède, réveille le feu de la veille, avec des feuilles et de l'écorce sèche, elle le nourrit, de son pauvre souffle, l'allume de flamme, apporte des torches fendues, des branchages secs, les brise, les met dans un petit chaudron de bronze. Ce que son mari a cueilli comme légumes dans le jardin bien arrosé, elle l'épluche, d'une fourche à deux dents soulève le dos poussiéreux d'une truie qui pendait à une poutre noire. De cette peau longtemps conservée, coupe une petite partie, coupée l'attendrie dans les eaux bouillantes. Pendant ce temps, il trompe les heures par des récits pour ne pas sentir l'attente. Il y avait ici un baquet de hêtre suspendu, par son anse arrondi à un clou. Il est empli d'eau tiède, prêt à recevoir des pieds à réchauffer. Au milieu, un oreiller d'herbe tendre posé sur le lit au cadre épié en bois de saule. Il secoue l'oreiller d'herbe tendre du fleuve posé sur un lit au cadre épié en bois de saule. Il le couvre de tissu qu'à part les jours de fête, on n'étend pas. C'est un vilain et vieux voile fait pour un lit en bois de saule. Les dieux se couchent, robe troussée, tremblante, la vieille installe la table. Le troisième pied de la table est trop court. D'un morceau d'argile glissé dessous, elle l'équilibre. Plus de pente. De feuilles de menthe verte, on essuie la table droite. Le fruit bicolore de la pure Minerve, on le pose ici. Caché dans le dépôt liquide, des cornouilles d'automne, ici des salades, des racines, des blocs de lait, des œufs tournés doucement sous la cendre tiède, le tout dans des plats d'argile. Après ça, gravé d'un même argent, on apporte un vase, des coupes faites de bois de hêtre, creuses, ointes de cire dorée. Un peu de temps et on envoie les plats chauds sortis du feu, puis les vins, qui ne sont pas de longue vieillesse. On les met un moment à part, en attendant le deuxième service. Ici, la noix, la figue et la datte plissée, la prune dans les larges corbeilles et les pommes odorantes, et les grappes cueillies aux vignes pourpres. Au milieu, un blanc rayon de miel. Par-dessus tout, de bons visages, de la volonté, ni passive, ni pauvre. Chaque fois que le cratère est vidé, il se remplit de lui-même. On le voit, le vin remonte. Saisi par cette nouveauté, le couple prend peur. De leurs mains tendues, Baucis et le timide Philémon font des prières, demandent pardon pour ce repas sans apprêt. Il y avait une oie, une seule, gardienne de la petite maison. À leurs invités divins, ils sont prêts à la sacrifier. Elle, vive, les fatigue, lourd d'âge, les fuit longtemps. À la fin, on dirait qu'au pied des dieux, elle se réfugie. Ils interdisent qu'on la tue. Nous sommes Dieu. Vos voisins sans religion paieront les peines méritées, disent-ils. Vous, vous serez libres du mal. Maintenant, laissez votre toit, accompagnez nos pas et sur le haut de la montagne, venez avec nous. Tous les deux obéissent, appuyés sur des bâtons. Ils s'efforcent de grimper pas à pas la longue pente. Leur manque, pour atteindre le sommet, l'espace d'une flèche envoyée. Ils tournent les yeux, voient que tout est inondé d'un étang, seule leur maison est debout. Tandis qu'ils s'étonnent, tandis qu'ils pleurent, le sort des leurs, ils voient tout inondé, ils cherchent le toit de leur chère maison. Seule, elle reste debout. Ils pleurent le sort des autres, etc., etc. Et puis ils vont finir par se transformer en arbre, enlacé pour toujours. Et là, c'est un peu le contraire de ce qu'on disait, puisqu'en effet, le bien est récompensé. Et c'est le côté un peu chrétien d'Ovide, puisque même le vin qu'on voit, c'est le miracle du vin dans les coupes, etc. Oui, c'est vrai, on n'est pas loin quand même.
Merci Marie Conné.
Merci beaucoup.